Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette émission des récits insolites de la Bible. Mon nom est Sébastien Daune, bibliste, avec vous pour tenter de redécouvrir la Bible à partir de ces récits insolites. Et oui, pourquoi pas? Pourquoi pas s'intéresser à la Bible en regardant les récits un peu moins habituels? Par exemple, aujourd'hui, je vais vous poser une question. Connaissez-vous Salomon? Oui, peut-être. C'est le fils de David, on le sait. Il va devenir un grand roi. Entre autres, il va construire le temple de Jérusalem. Jusqu'à là, il n'y a rien de spécial. Mais savez-vous combien est-ce que Salomon avait de femmes? En fait, je pourrais même vous demander combien de centaines de femmes est-ce que Salomon avait dans son harem? Je ne vous donne pas tout de suite la réponse. À vous de rester à l'écoute et on va bientôt le savoir. Avant d'en venir à vos commentaires reçus, je tiens à saluer nos auditeurs de Saint-Hyacinthe. J'étais lundi à la Maison de la Parole de Saint-Hyacinthe pour donner une conférence sur le Cantique des Cantiques. Et c'était assez drôle parce que j'ai commencé à accueillir le monde, à parler, et les participants, il y en a plusieurs qui m'ont reconnu tout de suite par ma voix. Ils m'ont dit « Il me semble qu'on connaît votre voix, vous devez être à Radio Ville-Marie ». Et oui, ils m'ont reconnu par l'émission qu'on a présentement. Alors, tous ceux de Saint-Hyacinthe, je vous salue. J'ai choisi une question à la fois simple et importante qui m'a été adressée par Roxane. C'est pas une question sur le texte qu'on a lu la semaine dernière, mais c'est une question un petit peu plus d'ordre général. Elle voulait savoir quelle est l'origine du mot « Bible ». Qu'est-ce que ça signifie, ça, ce mot-là, « Bible » ? Bien, à l'origine, le mot, c'était « bublos », qui désignait le papyrus sur lequel on écrivait. Mais avec le temps, « bublos » a été utilisé pour parler de ce qui était écrit, plus que juste du support comme tel. Alors, c'est devenu le mot pour parler d'un livre. Alors, en grec, « biblos », ça voulait dire « livre ». Dans la culture biblique, le pluriel « bibloi » visait l'ensemble des livres de l'Ancien Testament à cette époque-là. Puis, avec le temps, les pères de l'Église au 1er siècle, les premiers chrétiens, utilisaient le vocable « ta biblia » en grec pour renvoyer aux différents livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ils mettaient tout ça ensemble. Ta Biblia, ça voulait dire les livres. Et les livres, ça désignait les livres saints. Cette expression-là, fut transférée en latin, où c'est devenu un mot féminin singulier. C'est drôle parce que c'est passé d'un mot pluriel en grec, ta Biblia, et quand c'est rendu en latin, c'est devenu Biblia, mais c'est en latin, Biblia, c'est un féminin singulier. Alors, c'est passé de les livres à le livre. Donc, en français, Bible, qui traduit le mot biblia en latin, c'est le livre des livres. Le livre des livres, parce que c'est un livre, mais c'est plusieurs livres. Hein. Savez-vous combien il y en a dans la Bible au complet? C'est une vraie bibliothèque. Il y a 73 livres écrits, qui sont écrits dans des contextes très différents, sont très différents les uns des autres. Et le livre comme tel, la Bible, a été traduit dans plus de 2500 langues et dialectes. Ce qui fait qu'aucun ouvrage à travers le monde, qui a eu un tirage aussi important et constant au fil des siècles. La Bible a inspiré d'innombrables œuvres d'art, a façonné notre culture, la culture du monde occidental, et pourtant, c'est souvent le livre qui accumule le plus de poussière dans nos bibliothèques. Espérons que cette série d'émissions va nous donner le goût justement d'ouvrir nos Bibles de temps en temps et de les sortir de nos bibliothèques. Alors merci Roxane pour la question. Maintenant on sait que la Bible ça veut dire le livre. Et n'hésitez pas à faire comme elle, à m'envoyer des questions, même si elles sont d'ordre plus général comme celle-ci. Alors, je reviens à la question de départ. Combien de femmes avait Salomon? On va le savoir très bientôt. Thank you. ici Sébastien Daune. Au début de l'émission, je vous demandais combien pensez-vous que Salomon avait de femmes. Eh bien, c'est ça qui va être l'objet de notre émission. La tradition voit en Salomon, bon, le fils de David, comme le plus grand roi d'Israël après son père David. C'est lui, Salomon, qui va bâtir le temple, qui va agrandir le territoire à des dimensions jamais égalées. Alors, il va conquérir toutes sortes de territoires. Israël devient très grand sous Salomon. Et en plus de tout ça, il va épouser le plus grand nombre de femmes. Comme vous en doutez, la plupart étaient des femmes juives, mais il va conclure toutes sortes de mariages avec un grand nombre de femmes étrangères. Je vous en liste quelques-unes, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites et même la fille du Pharaon. Alors, tout ça, bien entendu, c'est des mariages qui sont arrangés pour conclure des alliances, des pactes avec d'autres pays. Par contre, le livre des Rois qui va relater tout ça semble critique par rapport à ses choix de femmes d'autres nations. On écoute ça, c'est dans le premier livre des Rois, le chapitre 11, les versets 2 à 3.
Elles étaient originaires des nations dont le Seigneur avait dit aux fils d'Israël, « Vous n'entrerez pas chez elles et elles n'entreront pas chez vous, sans quoi elles détourneraient vos cœurs vers leur Dieu. » C'est justement à ces nations que Salomon s'attacha à cause de ses amours. Il eut 700 femmes de rang princier et 300 concubines.
En écoutant ça, on voit bien que la polygamie était acceptée dans le monde biblique. Hein? Tous les rois d'Israël vivaient avec beaucoup d'épouses et de concubines, dis-je. Mais Salomon, c'est vraiment le champion de toute catégorie. On l'a entendu, 700 femmes et 300 concubines. Imaginez, là, au total, ça fait 1000 femmes, ça. Il pouvait disposer d'une femme différente dans son lit chaque soir pendant 3 ans et même en avoir davantage avant de revoir la première. Ça n'a aucun sens, là. Est-ce que Salomon a vraiment réellement épousé autant de femmes? Moi, j'en doute très fortement. Surtout que le nombre 1000 possède une valeur symbolique dans la Bible. Et je pense bien que vous êtes capable d'intuitionner quelle est la valeur symbolique du nombre 1000. Bien, signifie tout simplement une très grande quantité. D'ailleurs, c'est un peu particulier. On voit 700 et 300, c'est pas des chiffres, c'est des chiffres qui sont ronds. Hein? Alors, on se doute que ça doit pas être quelque chose d'historique. Ce nombre se veut impressionnant. Puis pourquoi est-ce que le rédacteur veut nous impressionner? Bien, c'est justement ça. Il essaie de nous émerveiller, de nous montrer la grandeur de ce roi-là. Juste une petite idée pour nous donner comment est-ce que ça peut nous impressionner. Bien, ces femmes-là, ça demande beaucoup d'argent pour les entretenir. Hein. Il fallait avoir pas mal d'argent pour s'occuper de leur garde-robe, leurs bijoux, leurs souliers, etc. C'est quelque chose d'entretenir autant de femmes. Donc, plus un roi avait de femmes, plus c'était un roi qui était riche, grand et même qui avait une renommée internationale pour Salomon, vu que ces femmes venaient d'un peu partout. Le premier verset du texte qu'on vient de lire précise que plusieurs de ces femmes provenaient de nations étrangères. Bon, c'est des mariages politiques, comme on le disait. Le but, c'était de faire des alliances avec des États voisins. C'était la coutume. Mais il semble qu'il n'y a pas juste des bons côtés à avoir de nombreuses épouses. En fait, ben, c'est le point de vue du livre des Rois, qui semble très critique de cette pratique de marier des femmes étrangères. On va lire un autre extrait du livre des Rois, toujours au chapitre 11, c'est la suite dans le fond, les versets 4 à 8. On écoute ça.
À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut plus intègre à l'égard du Seigneur, son Dieu, contrairement à ce qu'avait été le cœur de David, son père. Salomon suivit Astarté, déesse des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il ne suivit pas pleinement le Seigneur comme David son père. C'est alors que Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et aussi pour Molech, l'abomination des fils d'Ammon. Il en fit autant pour les dieux de toutes ces femmes étrangères. Elles offraient de l'encens et des sacrifices à leurs dieux.
Dans ce texte-là, on voit que Salomon n'a pas seulement construit le temple du Seigneur à Jérusalem, il va élever toutes sortes d'autres sanctuaires dédiés à d'autres divinités et destinés à ses femmes ainsi qu'aux commerçants étrangers. Alors, encore une fois, c'est probablement pour favoriser des bons contacts avec les nations voisines qui pouvaient venir en Israël et prier, rendre un culte à leurs divinités respectives. Mais le problème, c'est que cette pratique-là met en péril la pureté de la foi au vrai Dieu d'Israël. En tout cas, ça, c'est le point de vue du Livre des Rois. Si vous connaissez les 10 commandements, le premier commandement, c'est « tu te feras pas d'autre Dieu que moi, c'est moi le Seigneur ton Dieu ». Alors, ça marche pas, ça, cette pratique d'avoir toutes sortes d'autres temples pour les multiples femmes de Salomon. Le problème de Salomon, c'est pas vraiment le grand nombre de femmes. Dans le fond, le Livre des Rois, ça lui dérange pas qu'il y a 1000 femmes. Il pourrait en avoir 2000, ça ferait aucune différence. Sauf que le problème, c'est que ces femmes-là vont dévier sa foi vers d'autres dieux. Et c'est ça le problème, que Salomon soit détourné du seul vrai Dieu. On retrouve ici les préoccupations de ceux qui vont compléter la rédaction de la Bible. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui ne le savent pas, la Bible, c'est plusieurs textes qui vont être écrits à différentes époques, mais qui vont surtout être mis ensemble après l'exil à Babylone. Quand le peuple va revenir de l'exil, bon, on parle du 5e siècle à peu près, là, on va se mettre à écrire toutes ces histoires-là, le 5e siècle avant Jésus-Christ, bien entendu. Et quand les Juifs vont revenir à Jérusalem, ils vont reconstruire le temple et ils vont essayer de se fonder une identité très, très différente des autres. Ils veulent être le peuple de Yahvé, et c'est Yahvé, leur Dieu, qui va être la principale unité de leur peuple. Et l'alliance qu'ils font avec eux est une alliance presque jalouse. Il n'y a pas de place pour d'autres dieux, là. C'est Yahvé, et les autres n'existent même pas. Alors, le récit des femmes de Salomon, qui est raconté à cette époque-là, va être raconté pour discréditer les mariages mixtes. On veut pas que les Juifs de cette époque trouvent des femmes dans d'autres peuples, parce que ça pourrait justement mettre en péril l'identité du peuple, mettre en péril ce peuple-là qui essaye de se reconstruire et qui revient puis qui veut vraiment essayer d'être un peuple et non se fondre dans la masse des peuples de cette région-là. Les recherches archéologiques qui sont effectuées encore aujourd'hui en Israël, montrent que, justement, il y avait toutes sortes d'autres cultes à d'autres divinités qui étaient pratiquées dans la région. Si vous pensez qu'en Israël, on priait seulement Yahvé, le Dieu d'Israël, vous vous trompez. On a trouvé toutes sortes de statuettes d'autres dieux qui étaient bel et bien présents en Israël. Donc, la foi de monsieur, madame, tout le monde en Israël à cette époque-là, c'était pas juste une foi pure à Yahvé comme le demandent les prophètes. Au contraire, la preuve que c'était ça, c'est que les prophètes insistent tellement sur l'importance d'avoir une foi seulement à Yahvé, ben ça nous montre qu'ils devaient en avoir qui n'avaient pas cette foi unique-là. Donc, la Bible ne cessera de mettre le peuple en garde contre la pratique des cultes contraires à la foi au vrai Dieu d'Israël. Bon, le meilleur exemple, on l'a dit tout à l'heure, c'est les fameux 10 commandements qui vont interdire de servir d'autres dieux, de se fabriquer des idoles. Au retour de l'exil, les mariages avec des femmes étrangères sont toujours perçus comme une menace à l'intégrité de la race et de la foi. Donc, on voit pourquoi les femmes étrangères de Salomon sont pas vues d'un bon œil. À deux reprises dans le texte, Salomon est comparé désavantagement à son père. David, lui, semble avoir toujours été fidèle au Seigneur. Pourtant, on sait, on a déjà fait des émissions là-dessus ici, que David, c'était pas un ange. Il a commis l'adultère et commis un meurtre, c'est pas rien, mais il a jamais construit de sanctuaire aux dieux étrangers. Et c'est pour cette raison-là que David, dans ce texte-là, reste un modèle d'un roi fidèle à son seigneur, un modèle à suivre pour les autres rois qui viendront après lui. Alors que Salomon, pour ce sujet-là, le Livre des Rois semble indiquer que c'est pas le meilleur roi à suivre. Bon, que pensez-vous de tout ça? Est-ce qu'on peut réfléchir à ces réalités-là par rapport à nous? Notre culture à nous, c'est sûr qu'on a beaucoup moins de polygames, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans ce texte-là qui peut nous intéresser encore aujourd'hui. Alors, pensez-y, on y revient après un peu de musique. Vous êtes à l'écoute des récits insolites de la Bible en compagnie de Sébastien Daune. Aujourd'hui, nous parlons des 1000 femmes du roi Salomon. Ouais, on se demandait combien il y avait de femmes. Il y en a 1000. On a vu que c'était un chiffre symbolique. Probablement qu'historiquement, il avait beaucoup de femmes, mais 1000, on ne le sait pas. Dans la Bible, c'est un chiffre qui est symbolique d'un grand nombre. Alors donc, on se dit qu'il devait avoir un grand nombre de femmes. Le problème avec ces femmes-là, on l'a vu, c'est que c'était des femmes étrangères qui ont poussé Salomon à construire d'autres temples que le temple de Jérusalem dédié à Yahvé. Alors, il y avait d'autres temples qui étaient destinés à d'autres divinités de la région. Et ça, c'est un problème pour ceux qui vont écrire la Bible. Alors, suite à ça, comment on peut réfléchir à ça? Nous, aujourd'hui, dans notre monde, bon, on l'a dit, heureusement, il n'y a personne qui est marié à autant de femmes. Ça serait assez compliqué à faire vivre dans une maison. Aujourd'hui, la polygamie, elle est interdite dans nos sociétés occidentales, et juste cause, d'ailleurs, parce que on voit que la polygamie, ça amène pas un rapport d'égal à égal entre l'homme et la femme. C'est dans des cultures machistes, comme celle de l'Ancien Testament. Et bon, on est rendu ailleurs aujourd'hui. Il y a un long chemin qui nous sépare du temps de Salomon. Pourtant, il y a encore un certain discours religieux où on oublie cette évolution-là. On pense que le mariage tel qu'on le conçoit aujourd'hui a toujours été pareil. L'union d'un homme, d'une femme pour toujours, c'est comme ça, et voilà. Pourtant, la lecture de l'Ancien Testament qu'on vient de faire aujourd'hui montre bien que ce n'est pas le cas. Il a fallu beaucoup de temps pour que le peuple de la Bible passe de la polygamie à la monogamie. Et les coutumes liées au mariage sont vraiment pas immuables. Au contraire, elles évoluent et, pourquoi pas, elles pourraient encore changer avec le temps. En fait, elles changent tout le temps. À l'ère du divorce, aujourd'hui, on le sait, presque un mariage sur deux se rend au divorce, plusieurs églises pense à tout ça et rendre possible un deuxième et même un troisième mariage. Entre autres, il y a des églises orthodoxes, plusieurs églises protestantes qui vont dans cette direction-là. Pour eux, c'est une façon de rappeler que l'erreur est humaine puis que l'amour peut être possible malgré tout. Quelques confessions chrétiennes ont même commencé à reconnaître et à célébrer les mariages entre conjoints de même sexe, alors deux hommes ensemble ou deux femmes entre elles. Le mariage est donc une pratique qui est toujours en évolution. Mais il ne faudrait pas en conclure, cependant, que tout est permis. D'ailleurs, l'Église catholique a une autre approche, contrairement aux autres églises qui essayent d'aménager tout ça. Eux, ils restent avec la même façon de voir les choses depuis un certain temps. Mais comme on l'a vu, il y a quand même eu une évolution avant ça. Alors, c'est pourquoi on doit prendre le temps de repenser l'union matrimoniale pour nous aujourd'hui et pour demain, justement parce qu'on a vu qu'il y a eu une évolution et on voit qu'il y a toutes sortes de choses qui changent aujourd'hui. Je crois que chacun devrait penser, et les églises aussi, devraient penser à essayer de voir comment est-ce qu'on peut comprendre le mariage aujourd'hui à la lumière des textes bibliques où on voit qu'il y a une évolution dans tout ça. De plus, on peut se rappeler aussi que la visée du texte, c'était de dénoncer non pas les 1000 femmes de Salomon, mais dénoncer le fait qu'elles étaient étrangères et qu'elles rendaient un culte à d'autres dieux puis qu'elles détournaient l'attention de Salomon qui aurait dû être fidèle uniquement à Yahvé, le Dieu d'Israël. Bien, même si moi, j'ai pas 1000 femmes, bien, il y a des choses dans ma vie qui vont me détourner de Dieu. Et je suis presque sûr que c'est la même chose pour vous. Chacun, on a nos propres choses qui nous détournent de l'essentiel. Pensez-y. C'est quoi qui attire mon attention ailleurs que sur ce qu'il y a de plus important? Qu'est-ce qui m'attire ailleurs que sur la spiritualité, la vie spirituelle, Dieu? Hein? C'est à chacun d'y répondre. Et peut-être, si ça vous tente, vous pouvez même nous écrire pour nous en faire part et on pourrait en reparler à la prochaine émission. En cette fin d'émission, je vous suggère de vous procurer le livre intitulé « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » que j'ai écrit aux éditions Novelis et Mediapol. On y retrouve une trentaine de récits fort intéressants. Si vous avez des questions, des commentaires sur l'émission, et même des questions, des commentaires sur la Bible, hein, on a vu aujourd'hui, la question portait sur un aspect plus large de la Bible. Alors, n'hésitez pas à m'écrire pour me faire parvenir ces questions, ces commentaires. Entre autres, vous pouvez utiliser le courriel de la station auditoire@radiovm.com, auditoire@radiovm.com. Sinon aussi, le téléphone ou le courrier habituel de la station. Merci à Marie Laferrière pour ses lectures bibliques et surtout merci à vous tous, vous toutes, pour votre écoute attentive. La semaine prochaine, on va parler d'un texte assez particulier. Il s'agit d'une compétition entre Yahvé, le dieu d'Israël, et Baal, une divinité cananéenne. Je vous dis pas qui va gagner, mais ça va être un concours qui va finir dans un bain de sang. C'est assez particulier. Alors, n'hésitez pas à nous réécouter la semaine prochaine pour savoir de quoi il s'agit, parce que c'est quand même un récit qui vaut la peine d'être entendu. C'était Sébastien Daune, bibliste. Je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine.